Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 la bataille d'Azincourt qui a vu les archers anglais triompher de la chevalerie française. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons parler en effet aujourd'hui de chevaliers et de chevalerie, des mythes et des réalités de cette chevalerie. J'ai demandé à Xavier Hélary de nous accompagner dans cette plongée au cœur du Moyen-Âge.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Diala sur une vieille expression française.
L'expression « porter les armes de Bourges ». Alors je vais vous faire une confidence. Je ne savais même pas que cette expression existait. Je l'ai découverte, elle est passionnante et vous avez de votre côté une heure pour chercher à quoi elle correspond.
Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
Franck Ferrand.
Dieu des batailles, retrempe les cœurs de mes soldats, défends-les de la crainte, ôte-leur la faculté de compter si le nombre de nos adversaires doit leur enlever le courage. C'est William Shakespeare, évidemment, qui fait parler le roi d'Angleterre Henri V dans la pièce du même nom. Vous avez sans doute vu ça au cinéma avec Sir Laurence Olivier ou plus récemment avec Kenneth Branagh. C'est ce discours extraordinaire du roi d'Angleterre à ses soldats au moment de la bataille d'Azincourt. Nous sommes en octobre 1415 et si le roi d'Angleterre s'exprime ainsi, c'est que le déséquilibre des forces en présence est tout simplement incroyable. Ce combat, les Français, sur le papier, comme nous disons nous, ne peuvent pas le perdre. Ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux, en bien meilleure forme, incroyablement mieux équipés que les Anglais. Et il faut imaginer cette chevalerie française, toute couverte d'armures rutilantes. Il y a là, sans doute, aux yeux en tout cas des Français de l'époque, le moyen, l'occasion de mettre enfin un terme à ce conflit interminable qu'on nommera plus tard la guerre de Cent Ans et dont cette bataille n'est qu'un des épisodes, un énième épisode. Alors, sur le papier, tout était joué d'avance, sauf qu'évidemment, certaines apparences, notamment lorsqu'il s'agit de batailles, peuvent se révéler trompeuse et en l'occurrence la victoire n'a pas été à ce qu'on attendait. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut bien sûr se replonger dans cet événement, un événement terrible, fascinant, qui a conduit la France vraiment, j'allais dire, au bord du gouffre. Je crois qu'on peut dire que cette fois, après Azincourt, après 1415, la France est carrément allée dans le gouffre. Elle a atteint un abîme assez rare. Il faut que nous repartions quelques semaines en amont, si vous voulez. On est le 13 août 1415 et on peut imaginer ce jour-là quelle a été l'inquiétude des habitants de la côte normande lorsqu'ils ont vu se dessiner sur les flots quelques 1500 voilures anglaises. Imaginez cette armada de toile et de bois avec à son bord plusieurs milliers d'hommes dirigés par le roi d'Angleterre en personne, Henri V, le vaillant Henri V. Il n'a que 28 ans. Il est monté sur le trône 2 ans plus tôt, ce souverain de la jeune dynastie des Lancastres. Il est nécessaire pour lui d'affirmer sa légitimité et il ne cache pas ses ambitions qui sont de reprendre à son compte les revendications territoriales de ses ancêtres plantagenets, ce qui veut dire s'emparer d'une grande partie des provinces qui sont au roi de France, à commencer par la Normandie bien entendu. Ça tombe bien pour Henri V, la France est à cette époque-là dans une crise épouvantable. Rappelez-vous qui règne à cette époque. C'est le roi Charles VI, c'est ce roi fou qui a régné pendant plus de 3 décennies. Il était atteint de crises de démence intermittente, mais avec un État qui n'a fait toujours que se dégrader et qui a facilité l'opposition au sein même de la cour et du gouvernement de 2 factions, des factions princières, les Bourguignons d'un côté, les Armagnacs de l'autre, qui se disputent violemment le pouvoir. Dans ce contexte, les ambitions du roi d'Angleterre peuvent être tout à fait légitimes. Son premier but est relativement modeste, il s'agit de s'emparer d'Harfleur sur le continent. Harfleur, place forte qui protège l'entrée de l'estuaire de la Seine, qui est très décisive, cette place forte pour l'approvisionnement de Paris, bien entendu. Harfleur est une ville relativement importante, nous apprend François Neveu. Elle comptait environ 5000 habitants. Elle est bien fortifiée par une muraille comprenant 34 tours. Alors bon, une belle muraille, mais une garnison qui en revanche se révèle un peu chétive. Même si elle reçoit un petit renfort, on peut dire qu'elle fait pâle figure, cette garnison, avec ses 400 lances. Encore une fois, en face, ce sont des milliers d'Anglais qui ne tardent pas à l'assiéger. Au bout d'un mois environ, et malgré une résistance tout à fait courageuse, Harfleur tombe. Entre parenthèses, je précise, parce qu'on parle d'Harfleur, il n'existe pas encore de Havre à l'époque. Le Havre de Grasse sera plus tard, sous François Ier. Je referme très vite la parenthèse. Donc, on peut dire qu'aucune armée française d'importance n'est venue au secours de la garnison d'Harfleur. Le prix des divisions françaises se paie comptant, semble-t-il, et Henri V va donc pouvoir prendre la ville. Il n'en profite pas, il pourrait aller du côté de Rouen, il pourrait peut-être même venir menacer Paris. Seulement, on est déjà en automne, l'armée anglaise est très fatiguée, et Henri va choisir de rejoindre Calais, qui est une possession anglaise. Donc, en quelque sorte, il rentre au pays, même s'il reste sur le continent. Alors ça, tout ça ne se fait pas si facilement, parce qu'il y a tout un petit périple pour Henri et ses milliers d'hommes, une entreprise qui s'avère relativement ardue, puisque non seulement les soldats n'ont pas de quoi manger, mais tout épuisé, ils tombent malades, on a l'impression qu'ils s'effondrent tous les uns après les autres, et pour ne rien arranger, la traversée de la Somme est compliquée. Les ponts sont bien protégés, Henri V doit se lancer lui-même dans la fatigante recherche d'un passage sûr en amont, et il apprend à ce moment-là, et ça c'est une chose assez incroyable, que les Français ont fini par se mettre d'accord. Lui qui pensait que la division était tellement totale qu'on ne verrait jamais les Français réagir, eh bien si, une armée française s'est constituée pour se mettre à sa poursuite. Alors certes, elle a 5 chefs différents, ce qui augure mal de son efficacité. Mais enfin, le danger n'en est pas moins réel, bien entendu. Henri a d'ailleurs reçu le défi, vous savez, on est dans les coutumes de chevalerie dont on parlera tout à l'heure, on lui a apporté le cartel, le défi. Dans la guerre médiévale, précise Valérie Toureille, le défi constituait la disposition d'usage qui indiquait que l'on proposait la bataille à son adversaire. Henri V refusa, prétextant qu'il combattrait là où il lui plairait. Les 4 jours suivants, les chevaliers anglais chevauchèrent en armure, craignant une attaque par surprise. Et c'est vrai que l'armée française va très vite. Elle arrive à doubler ses adversaires, ce qui veut dire que les Français vont arriver à barrer la route des Anglais. Henri V est dans une position difficile. Il va quand même avoir l'habileté de trouver un lieu d'affrontement favorable. Une étendue terreuse qui est en pente légère, qui est enserrée par 2 bois. Vous allez voir que ça a son importance. Quoi qu'il en soit, au soir du 24 octobre, les 2 armées se font face. La bataille est donc pour le lendemain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'atmosphère n'est pas du tout la même dans les 2 camps, si l'on en croit du moins Shakespeare, mais les historiens sont relativement d'accord sur ce fait. Du côté anglais, on est dans l'anxiété, évidemment, on est en infériorité numérique et de force très considérable. Du côté anglais, on festoie, on ripaille. Cette bataille n'est après tout qu'une sorte de simple formalité.
C'est un extrait de la bande originale du film Henri V, musique signée Patrick Boyle, un film de Kenneth Branagh, un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, Franck Ferrand.
Quand les troupes françaises tentent de barrer la route à l'armée du roi d'Angleterre Henri V, cet après-midi, vous l'avez compris sur Europe 1, nous sommes en 1415 au cœur de la bataille d'Azincourt, Franck.
Il pleut sur Azincourt, ce qui n'est pas pour des paysans les Anglais, bien entendu. Ils se sont installés, je vous l'ai dit, légèrement en hauteur les Anglais et ils scrutent les premières lueurs de l'aube et ils veulent voir à quoi ressemble l'armée française en face. Il y a de quoi être très inquiet, bien entendu. Le spectacle qu'ils ont sous les yeux est aussi extraordinaire que terrifiant. C'était un formidable déploiement de force, reprend Valérie Toureille. Une foule immense couvrant toute l'étendue de la plaine, des centaines de pennons et de bannières claquant au vent, des milliers d'armures que les flèches du soleil levant parsemaient de reflets dorés, un rassemblement de lances et de chevaux et, derrière, une ville de tentes et de chariots au-dessus desquels flottaient des armes des meilleures familles. Au premier rang, infranchissable, Le mur des chevaliers français s'étirait en une longue ligne comme un obstacle d'acier. Il pleut sur Azincourt, en tout cas il a plu jusqu'au petit matin, mais inutile de vous dire que les chevaliers français n'en ont cure. La noblesse est là, elle a répondu à l'appel de son roi, même si ce pauvre roi est défaillant. Il faut compter 12 à 20 000 hommes selon les estimations, et pour une bonne part, ce qui est assez inhabituel, mais sur l'os de France on l'a déjà vu à plusieurs reprises, une armée constituée en bonne partie, de chevaliers. Alors il faut imaginer ces puissants armures qui rivalisent d'éclat. Certains se tiennent fièrement sur leurs superbes montures comme pour souligner qu'ils sont au-dessus du commun des hommes. Les représentants des plus hautes lignées, suivant un strict sens de l'honneur, ont tenu pour beaucoup à se placer au-devant de leurs hommes, reléguant les arbalétriers qui peut-être ont été jugés moins utiles sur les positions reculées. Alors évidemment, rien à voir du côté anglais. On est dans une formation plus modeste, disons, beaucoup plus fluette, mais aussi beaucoup plus légère. 6 à 9 000 hommes seulement du côté anglais, avec une minorité de chevaliers. Le gros de la troupe chez les Anglais est formé des fameux archers. Alors des archers très redoutés, mais qui sont bien éloignés avec leur équipement presque ridicule de la noblesse majestueuse des combattants français. Dans la matinée, c'est l'heure des ultimes négociations, vous savez, négociations qui échouent. Pas de doute, côté français, on veut en découdre, pas question de s'entendre avec les Anglais. Les chevaliers réalisent que l'abondante pluie nocturne a cependant transformé le terrain en une sorte de champ de boue. Terrain lourd, dirait-on, du côté de Vincennes. Par souci d'efficacité, il a été décidé pour beaucoup de descendre des chevaux. Et c'est à pied, l'arme bien en main, que les Français attendent l'assaut des Anglais, si je puis dire. La bataille va d'ailleurs commencer quand Henri V ordonne à son armée de faire un mouvement en avant pour mettre les Français à portée de flèche. Et là, c'est une nouvelle pluie qui s'abat sur Azincourt. Mais cette fois, ce n'est plus une pluie d'eau, hein, c'est une pluie d'acier, ce sont ces flèches qui tombent littéralement du ciel. Alors, évidemment, on tente un mouvement de cavalerie contre les archers, seulement les archers anglais, ils sont très mobiles. Et au dernier moment, alors que les cavaliers français se précipitent sur eux, ils s'écartent et ils dévoilent des pieux qui avaient été enfoncés dans la terre pendant la nuit. Et là, les chevaux français vont littéralement s'éventrer, s'empaler sur les flèches anglaises. C'est un carnage, vous imaginez ces animaux blessés qui deviennent fous, qui s'effondrent dans la boue, ce qui gêne beaucoup les autres combattants. Certains sont même carrément écrasés, piétinés. Et une évidence va bientôt s'imposer. Ce terrain complètement humide, c'est le moins qu'on puisse dire, va transformer le champ de bataille en lieu d'enfer pour les Français. Ils sont engoncés, nos Français, dans leurs lourdes armures, ces chevaliers qui s'enfoncent littéralement dans la terre désormais trop molle. Chaque pas leur demande une énergie démesurée pour se décoller de la glaise et de la boue. Il y a des combattants qui vont même s'effondrer et qu'on verra incapables de se relever. Mais vous imaginez. Et puis il y a ces deux bois, hein, je vous en ai parlé, ces deux petites forêts, ces bois qui enserrent le champ de bataille, qui créent comme un goulot d'étranglement dans lequel les chevaliers français, trop nombreux et, disons-le, très mal organisés, s'entrechoquent, se gênent dans leurs mouvements, ils sont ralentis. Ils sont une proie facile pour les Anglais. Ils demeurent là, nous dit André Castelot, comme à l'abattoir, plantés dans la boue, empêtrés dans leurs armures. Bientôt, il suffit aux Anglais, dont la légèreté facilite considérablement les mouvements, d'aller forcer les chevaliers embourbés à se rendre. Pour eux, ces captures sont l'espoir de recevoir de lourdes rançons. Vous savez, on est dans cette habitude de détenir captif un certain nombre de chevaliers et de réclamer les rançons. C'est ce qui rapporte, si je puis dire, dans les guerres de l'époque. Eh bien, dans la terre fertile d'Azincourt, la moisson est excellente. Alors que les Anglais contrôlent la situation, Henri V craint une contre-attaque. Et là, il va donner un ordre absolument incroyable pour l'époque. Il ordonne l'impensable. Il ordonne qu'on tue les captifs. C'est complètement contraire aux usages de la chevalerie. Inutile de vous dire qu'on rechigne dans les rangs anglais parce que c'est un manque à gagner considérable. Mais le roi d'Angleterre ne transige pas. Il exige que l'on saigne littéralement les seigneurs français qui, pour une partie d'entre eux en tout cas, vont être ainsi égorgés. Le plus noble sang de France se mêle maintenant à la boue. C'est incroyable, c'est un désastre total. Le combat est perdu et malgré quelques actes de bravoure qu'il ne faut pas oublier, on peut dire que ce jour-là, c'est toute la chevalerie française qui vient d'être saignée. C'est peut-être le pays lui-même qui va rouler dans le précipice. Alors on fait le décompte, il est macabre. Côté anglais, entre 900 et 1500 victimes. Côté français, sûrement plus de 5000, peut-être 7000.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant.
Au cœur de l'histoire en été sur Europe 1.
7 jours sur 7, de 14h à 15h.
Franck Ferrand.
Les Français étaient trois fois plus nombreux et pourtant ce sont les Anglais qui sont sortis victorieux de la bataille d'Azincourt. Sur Europe 1 cet après-midi, nous sommes en 1415, Franck.
Le drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite, c'est l'ouvrage que fait paraître Valérie Toureil chez Albin Michel. Et elle nous dit qu'en une seule journée, le royaume avait perdu une part significative de son aristocratie et de fait une grande partie de son encadrement militaire et administratif. La fine fleur de la chevalerie avait disparu dans la boue d'Azincourt. Il faut ajouter tous les prisonniers, parce qu'au-delà des milliers de morts, il y a eu énormément de prisonniers que les Anglais ont ramassés, si je puis dire, dans la boue, parmi eux le fameux duc d'Orléans, vous savez, Charles d'Orléans, qui restera un quart de siècle captif en Angleterre et qui fera de son malheur de somptueux poèmes. Peut-être ce que la littérature médiévale nous a laissé léguer de plus délicat. C'est donc une tragédie qui, comme souvent, en entraîne d'autres avec elle. Déjà, on avait ce roi fou, ce pauvre Charles VI, qui évidemment est toujours aussi incapable de reprendre la situation en main. Les factions armagnac et bourguignonne vont reprendre leur fameuse et vieille lutte d'influence. Le duc de Bourgogne, Jean sans peur, va même jusqu'à se rapprocher en secret du roi d'Angleterre, pour autant qu'on le sache. Et dans les mois et les années qui suivent, le roi d'Angleterre va carrément s'emparer de la Normandie. Il faut imaginer le climat de méfiance généralisée qui s'est installé partout. Les Armagnacs qui tiennent Paris pourchassent tous ceux qui sont soupçonnés d'être pro-bourguignons. L'atmosphère devient pesante. Les portes des villes sont finalement ouvertes à des bourguignons qui déclenchent une émeute et se lancent dans une politique de terreur. Cette fois, c'est les Armagnacs qui sont tués. Et alors que le jeune dauphin Charles, celui qui nettement plus tard deviendra Charles VII, a réussi à fuir Paris, son père, si l'on en croit en tout cas les arbres généalogiques officiels des Valois, son père a réussi, lui, à simplement se tomber entre les griffes, si je puis dire, des Bourguignons. Jean sans peur se lance dans des négociations avec le roi d'Angleterre pour obtenir une trêve. Et la France, à ce moment-là, est plus que jamais divisée. Mais pour le duc de Bourgogne, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu parce qu'Henri V, qui vient donc de conquérir la Normandie, se révèle de plus en plus gourmand, trop gourmand sans doute aux yeux de ses alliés, et Jean sans peur se refroidit. Il lui paraît même raisonnable de voir si un meilleur accord ne serait pas possible avec le dauphin Charles, justement, qui est devenu de fait le chef du parti armagnac et qui contrôle maintenant une grande part du sud de la France. C'est là qu'intervient le fameux épisode de Montreux, vous savez, le pont de Montreux en 1419. Le duc de Bourgogne et le dauphin Charles, qui sont chacun accompagnés de toute une troupe d'hommes en armes, vont négocier un rapprochement. Ils se retrouvent au milieu du pont. La conversation, semble-t-il, dégénère. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. La légende veut que le duc de Bourgogne ait mis à un moment dans le feu, sans doute, de la conversation, la main à la garde de son épée, et que c'est la raison pour laquelle Tanguy du Châtel lui aurait littéralement sauté dessus. Toujours est-il qu'on dégaine dans les deux camps et que c'est Jean sans peur qui tombe, frappé de plusieurs coups. Ça, c'est une nouvelle catastrophe parce que cette fois, les Bourguignons n'hésitent plus. Ils vont se jeter littéralement dans les bras de l'Angleterre. Et on arrive, c'est là que je voulais en venir, bien entendu, c'est en quelque sorte, sinon la conclusion, du moins l'épilogue de cette terrible bataille d'Azincourt. 5 ans plus tard, donc en 1420, le pauvre roi qui en plus est devenu un peu sénile maintenant, en dehors de ses accès de démence, et qui est un peu le jouet de tous ceux qui l'entourent, va signer, vous savez, le désastreux, ce qu'on appelle le honteux traité de Troyes, au terme duquel le roi de France déshérite son propre fils et reconnaît le roi d'Angleterre comme son héritier légitime après lui. C'est à ce moment-là, on peut dire, la souveraineté française elle-même qui est complètement atteinte. On peut penser, en 1420, qu'il n'y a plus de France. Et bien sûr, la cause en revient toujours dans l'esprit des gens à Azincourt. Le roi d'Angleterre semble avoir atteint son but. Il avait commencé par prendre Harfleur et le voilà, en tout cas voilà son fils, puisqu'il va mourir avant Henri V, le petit Henri VI qui est roi de France et d'Angleterre. Alors vous connaissez la suite, moi aussi. La suite, c'est que, bien entendu, Charles ne va pas se laisser faire et que grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc, tout va basculer. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Bonjour Xavier Hilary.
Bonjour.
Nous étions à Azincourt, nous avons essayé de suivre les pauvres chevaliers français avec vous. Nous allons faire mieux connaissance avec ces grands seigneurs.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Cour de Francis Cabrel, c'est un tout nouveau morceau que vous retrouvez sur son dernier album In Extremis. Il a choisi d'aborder la bataille d'Azincourt sous un angle original, celui de la douleur des survivants. On parle de la bataille d'Azincourt cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Xavier Hilary, professeur d'histoire médiévale à l'université Lyon 3.
Il faut que nous revenions, Xavier Hilary, quelques instants sur cette bataille. Vous avez parlé, vous, d'une autre de ces grandes bataille, parce que c'est toute une série. On a parlé du désastre d'Azincourt, mais on aurait aussi bien pu parler du désastre de Courtrai ou de celui de Poitiers, bien entendu. Vous étiez, vous, intéressé à la bataille de Courtrai?
Oui, effectivement, c'est une bataille qui a lieu en 1302 et qui est la première de ces grandes défaites de la chevalerie française. Alors, la bataille de Courtrai, c'est une bataille qui oppose la chevalerie française, les hommes du roi de France, face aux Flamands qui sont révoltés, spécifiquement les Brugeois. Et donc, c'est la première grande défaite et elle s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans une série de défaites qui comprend ensuite la bataille de Crécy en 1346, la bataille de Poitiers en 1356, la bataille d'Azincourt, dont vous avez parlé.
1415.
Et les deux batailles de Cravant en 1423 et de Verneuil en 1424 qui viennent clore un petit peu cette série de défaites.
Comment expliquer qu'après les deux premières défaites, mettons, la chevalerie française n'ait pas compris qu'elle n'était plus en état de combattre face aux nouveaux moyens mis en œuvre notamment par les Anglais?
Alors, il y a quand même une capacité d'adaptation et la série de batailles dont nous parlons entre 1302 et 1424 s'étend quand même sur plusieurs générations. Il y a quand même une capacité d'adaptation et par exemple, on sait qu'à Poitiers, Jean le Bon, qui va être fait prisonnier, a décidé de combattre à pied, en fait, et donc de ne plus combattre à cheval. Donc, il y a une capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation, elle se voit également dans le fait que beaucoup de batailles ne sont pas livrés en réalité. Beaucoup de batailles, il y a beaucoup d'occasions où les deux armées, anglaises et françaises, sont face à face et où l'armée française refuse de livrer bataille de peur de renouveler une défaite du type de celle de Crécy ou d'Azincourt.
Il y avait dans la chevalerie, et nous allons y venir dans un instant, bien entendu beaucoup de beauté, beaucoup d'honneur, quelque chose de somptueux, et en même temps une certaine rigidité. On a en tout cas, lorsqu'on lit les différents récits de la bataille d'Azincourt, toujours l'impression d'une certaine rigidité française face à la mobilité anglaise. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est une réalité ?
C'est certainement une réalité dans la mesure où finalement l'armée française est une armée de chevaliers, l'armée anglaise ne l'est plus, bien que les Anglais prétendent se comporter de façon chevaleresque. Édouard III puis Henri V se présentent comme des héros de la chevalerie, mais ils ne combattent plus en chevalier. Le fait qu'ils recourent massivement aux archers face à une armée française qui est une armée de cavaliers lourds, donc de chevaliers, montre bien ce fait qu'ils ont compris, les Anglais, davantage de que les Français.
Alors à quoi ressemblait sur le champ de bataille d'Azincourt l'équipement d'un chevalier français ?
Alors l'équipement d'un chevalier français, on le connaît assez bien parce qu'à partir du début du XVe siècle, on commence à conserver des armures en fait, hein, ce qui est beaucoup plus difficile pour la période antérieure. Mais là, on sait que c'est un équipement qui est assez lourd, mais ces hommes sont entraînés à porter ces armures de plate et donc ils ne sont pas gênés outre mesure par ces armures.
Vous appelez ça des armures de plate, c'est-à-dire
des armures de plate, alors des armures donc composées de pièces métalliques, donc ça, on met un certain temps évidemment à les revêtir, qui ont remplacé les cottes de mailles de la période précédente. Et ces armures de plate sont lourdes, mais elles assurent aussi une protection assez efficace aux chevaliers qui les portent.
Oui, ce qu'il faut, c'est ne pas tomber dans la boue loin de son cheval. Parce qu'on est accompagné quand même. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un chevalier d'armes avec. Vous n'êtes pas tout seul.
Alors, oui, il y a un écuyer, servant d'armes qui est censé même apporter un nouveau cheval au cas où le premier cheval est tué.
Oui, mais ça, c'est en faisant abstraction de toute la, évidemment, de toute du désordre de la bataille hein, et
oui,
des aléas du combat.
Même à la bataille de Mansampevel, par exemple, en 1304, Philippe le Bel reçoit plusieurs chevaux comme ça, donc au fil du combat. Donc ça veut dire que c'était possible quand même.
Combien pesait une armure à peu près de
ce... Ça peut être 30 kilos, donc c'est quand même. Mais encore une fois, ce sont des hommes entraînés à porter ces armures, donc ils ne sont pas forcément gênés par elles.
Quand vous dites entraînés, ils ne faisaient pas la guerre en permanence, bien entendu, et cette fameuse guerre de 100 ans dont on parle a connu de très longues périodes de trêve. Que faisait-on hors des périodes de combat ?
Alors, en dehors, c'est vrai, c'est une convention finalement de parler de guerre de 100 ans, mais il y a quand même une unité dans cette longue guerre, puisque c'est question de la légitimité autour de la couronne de France. Mais pendant ces longues périodes de trêve, eh bien, il y a d'autres manières de s'entraîner, notamment dans les joutes, dans les tournois, et puis simplement ce sont dans la chasse, ce sont des hommes qui sont quand même normalement entraînés aux exercices physiques.
Alors dans un instant avec vous, nous allons revenir sur les origines de la chevalerie, sur ses codes, sur tous ses traits distinctifs. Ça fait encore rêver les chevaliers quelques siècles plus tard. Il faut croire qu'ils avaient réussi à atteindre un modèle relativement pur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Pour les Anglais, cette bataille reste l'une des victoires les plus célébrées, notamment par William Shakespeare dans la pièce de théâtre Henri V. On s'intéresse à la bataille d'Azincourt en particulier et aux chevaliers en général cet après-midi. Avec vous, Franck, et votre invité, Xavier Hélary, professeur d'histoire médiévale à l'Université Lyon 3.
Et grand spécialiste de la guerre au Moyen-Âge, l'armée du roi de France, la guerre de Saint-Louis à Philippe le Bel. C'est le titre d'un de vos derniers ouvrages, Xavier Hélary, aux éditions Perrin. Alors, Xavier Hélary, reprenons peut-être les choses au commencement. Quand naît la chevalerie ? À quel moment est-ce qu'on peut parler de chevalier ?
Alors on peut parler de chevalier vraiment à partir du XIe siècle, dans la deuxième moitié du XIe siècle. Évidemment, les chevaliers prennent la suite en quelque sorte de d'autres guerriers, mais le terme de chevalier, dans toute sa complexité, dans sa multitude de sens, finalement on peut l'admettre à partir de la deuxième moitié du XIe siècle.
Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a déjà des ordres de chevalerie que...
Alors, il n'y a pas d'ordre de chevalerie. Et on peut entendre par ordre de chevalerie à la fois ces ordres comme l'ordre de la Jarretière, qui est fondé par Édouard III dans les années 1340, et puis ces ordres militaires que sont les Templiers, les Hospitaliers, qui sont postérieurs aussi. Mais finalement, la chevalerie est un ordre en tant que tel. Et au XIIe, au XIIIe siècle, on parle volontiers de l'ordre de la chevalerie pour désigner l'ensemble des chevaliers qui ont été adoubés.
C'est intéressant parce qu'avec le temps, on va voir naître justement ces fameux ordres. Vous parlez de l'ordre de la Jarretière. Comme par hasard, presque toujours lorsqu'il s'agit d'institutions, ce sont les Anglais qui fixent les choses et ensuite on va suivre le modèle, si je puis dire, avec le célèbre ordre de la Toison d'Or, notamment beaucoup plus tard, enfin au 15e, là, 15e, en Bourgogne. C'est intéressant peut-être aussi de dire un mot, parce qu'on n'y reviendra pas, de ces ordres de chevaliers qui sont des moines-soldats en quelque sorte. Vous parliez des Templiers, des Hospitaliers.
Oui, alors c'est un cas limite en fait, puisque ces moines-soldats sont à la fois donc des religieux plutôt, c'est-à-dire des clercs qui dépendent de l'Église, et mais des clercs qui sont autorisés à verser le sang donc pour combattre pour la Terre Sainte, principalement les Templiers, les Hospitaliers et les Chevaliers Teutoniques.
Alors, ces chevaliers naissent, vous nous dites, au XIe siècle, ils se développent petit à petit. Quelle est la période, quel est l'apogée de la chevalerie ?
Alors, l'apogée de la chevalerie, c'est sûrement le XIIe siècle, et en mordant un petit peu sur le XIIIe siècle. À l'époque d'Azincourt, dont nous avons parlé tout à l'heure, la chevalerie est déjà quand même en déclin, et elle représente surtout une idéologie
fin,
ou un code de conduite.
Voilà,
et, alors, une fin qui s'étend très longtemps, puisque à Marignan, dont on a célébré le 500e anniversaire, il n'y a pas longtemps, François Ier se fait adouber, donc veut devenir lui-même chevalier. Donc, longue persistance de cet idéal chevaleresque. Mais alors, c'est vraiment au XIIe siècle que la chevalerie atteint son plein développement et son apogée.
Lorsque je vous entends parler, je me dis qu'il y a trois façons de définir un chevalier. On a vu tout à l'heure qu'il y a une manière assez matérielle. Il faut qu'il soit, par définition, à cheval, avec une armure, avec un armement particulier, avec un service autour de lui. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les chevaliers ?
Alors, il y a une hiérarchie, puisqu'on distingue normalement les chevaliers bannerets, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de porter bannière, donc de diriger un groupe de combattants. Ce sont les plus riches et les plus puissants. Et puis les chevaliers simples, les chevaliers d'un écu, qui n'ont que leur propre cheval et éventuellement leur propre suite avec eux, mais qui est une suite réduite alors.
Alors justement, ça c'est le premier aspect. Il y a un aspect dont on parlera tout à l'heure, qui est toute la culture de la chevalerie, tous les principes moraux, les codes qui ont été établis, bien entendu. Mais il faut peut-être parler aussi de la dimension nobiliaire. Être chevalier, c'est quand même appartenir à un certain rang social.
Alors c'est vrai surtout à partir du début du XIIIe siècle, à partir du moment où la chevalerie et la noblesse se confondent, puisque au XIe siècle, le rapport entre chevalerie et noblesse est plus incertain en fait. Et c'est simplement progressivement que la chevalerie va se restreindre à la noblesse et va se confondre avec la noblesse. Et à partir de ce moment-là, ce sera plus difficile de devenir chevalier et l'adoubement à ce moment-là va devenir plus restrictif.
Est-ce qu'il y a, un intérêt social à devenir chevalier? Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on connaît des exemples historiques de personnes qui voulaient à tout prix être adoubées parce que ça leur permettait d'accéder à certains cercles?
Alors oui, certainement, dans l'entourage des rois, on ne parle pas d'ailleurs d'anoblissement. Quand Philippe le Bel, par exemple, veut honorer un de ses serviteurs, il lui donne le baudrier de la chevalerie, c'est-à-dire qu'il lui donne l'autorisation d'être adoubé, même si ce n'est pas un combattant. Donc là, la chevalerie est vraiment un signe distinctif, effectivement.
J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de voir la reine d'Angleterre adouber des chevaliers. C'est toujours très spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que l'adoubement? En quoi consiste cette cérémonie? Qui, en Angleterre, n'a pas changé, je le précise, depuis le XIVe siècle.
Alors, peut-être qu'elle a changé
un
quand même,
peu,
parce que l'adoubement,
peu, oui.
Même au long de la... Simplement pour se cantonner au Moyen-Âge, a tendance quand même à évoluer.
Et à s'alléger, disons. Oui.
Non, plutôt à se compliquer, en fait.
Oui.
Parce que l'adoubement est une cérémonie qui se ritualise progressivement. Et ce n'est par exemple qu'à partir du XIIIe siècle que la présence d'un clerc, d'un prêtre ou d'un évêque est requise. Alors qu'auparavant, c'est une cérémonie qui est uniquement laïque et qui marque la majorité du jeune homme et son entrée dans l'âge adulte, en quelque sorte, avec la remise des armes. Les armes, c'est-à-dire essentiellement l'épée et les éperons. C'est vraiment ça qui constitue la cérémonie jusqu'au XIIe siècle. Et à partir du XIIIe siècle, l'adoubement donc se cléricalise en quelque sorte et l'Église y intervient davantage. Mais l'adoubement, malgré tout, reste très divers. Il peut être... Ça peut être l'adoubement des romans de chevalerie où il faut prier toute une nuit, faire une veillée de prière la veille de l'adoubement. Mais ça peut être aussi l'adoubement sur le champ de bataille. On adoube souvent les jeunes chevaliers au matin d'une bataille. Certains qu'à Azincourt, plusieurs dizaines de jeunes chevaliers ont été adoubés justement et admis dans l'ordre de chevalerie à l'occasion de la bataille.
Il y avait une dimension un peu sacrée dans cette cérémonie?
Alors au départ c'est vraiment une cérémonie laïque, une cérémonie simplement de remise des armes, mais c'est vrai que c'est un moment important de la vie du jeune chevalier, du jeune noble, et c'est un moment qui se déroule en public. Il faut que les autres attestent le fait qu'il y a eu cet adoubement et cette entrée dans la chevalerie.
Et on pourrait presque dire qu'il y a une reconnaissance. C'est le groupe entier qui se trouve fortifié par la cérémonie elle-même.
C'est une cérémonie qui se passe entre pairs, entre égaux
P-I-R-S,
en quelque sorte.
Oui.
Voilà, exactement, entre égaux. Et donc les chevaliers sont des égaux. Le roi de France, il n'est pas encore adoubé au moment de son sacre, est adoubé et devient un chevalier. Il doit considérer les autres chevaliers finalement, au moins fictivement, comme ses égaux.
Est-ce qu'à une époque, parce que là nous avons les exemples un peu désastreux de toute cette suite des batailles de la guerre de Cent Ans et évidemment aujourd'hui d'Azincourt, est-ce qu'il y a une époque où les chevaliers étaient efficaces tout de même? Est-ce que c'était des machines de guerre inquiétantes, si je puis dire?
De toute façon, les chevaliers restent quand même, tendanciellement, ils restent quand même les maîtres du champ de bataille. Et Henri V serait très vexé que vous ne le considériez pas
comme un chevalier.
Lui-même se considérait comme tel et même comme un parangon de chevalerie. Et par conséquent, donc les chevaliers finalement sont restés les maîtres du champ de bataille, même s'il y a eu plusieurs défaites de la chevalerie française.
Vous avez évoqué tout à l'heure le roi François Ier. Qui donc était de toute façon, comme tous les rois de France, adoubé à son sacre, mais enfin qui aurait effectivement été adoubé à Marignan. Il y a un autre roi de France et son fils qui avait une passion pour la chevalerie, mais alors celle-là était toute livresque. Il est mort quand même dans un tournoi. Il faut peut-être que nous parlions de ces tournois et de leur évolution à travers les siècles.
Alors les tournois...
Je parle d'Henri II, bien sûr, pardon.
Oui, d'Henri II qui meurt d'une blessure reçue au cours d'un tournoi. Alors, les tournois, c'est vraiment le grand divertissement de la chevalerie. Les premières mentions de tournois, c'est à la fin du XIe siècle. Et les tournois prennent là aussi, c'est pour ça qu'on peut parler d'une apogée de la chevalerie pour le XIIe siècle, parce que les tournois, c'est vraiment leur grand moment, c'est au XIIe et au XIIIe siècle, et ensuite ils évoluent un petit peu. L'image que nous en avons dans les films, dans les séries, etc., c'est plutôt la joute. La joute, c'est-à-dire deux chevaliers qui se lancent l'un contre l'autre et qui essayent de se désarçonner. Ça, c'est plutôt à partir du début du XIVe siècle, et le vrai tournoi, en quelque sorte, au XIIe, XIIIe siècle, c'est une mêlée qui mêle plusieurs centaines de chevaliers dans deux équipes qui s'opposent les uns aux autres dans une espèce de petite guerre et de bataille qui peut s'étendre sur plusieurs hectares en fait. Donc c'est vraiment comme un substitut de la guerre avec de vraies armes, donc avec de vrais accidents, mais dont le but n'est pas de tuer l'adversaire, mais comme vous l'avez dit à propos de la bataille d'Azincourt, de le rançonner et de tirer de l'argent du chevalier, de son armure et éventuellement de son cheval.
Tout cela suppose le respect de codes bien établis.
Effectivement, ils ne le sont pas toujours, mais enfin, il y a une espèce de police du tournoi qui veille à ce qu'on se comporte loyalement. Et ceux qui ne se comportent pas loyalement sont jugés avec sévérité. Et il y en a qui trichent, évidemment, mais on donne leur nom dans les récits de tournoi qu'on trouve très souvent dans les chroniques de l'époque.
Une chose qui est amusante, si vous allez sur les chaînes pour la jeunesse, vous verrez qu'il y a beaucoup de téléfilms en ce moment, de séries, etc., qui tournent autour de la chevalerie d'une manière ou d'une autre, avec toutes sortes d'évolutions. Mais du Japon jusqu'en Amérique du Sud, les productions pour la jeunesse parlent beaucoup de ces chevaliers européens du Moyen-Âge, comme s'il s'agissait tout de même d'un modèle. Les chevaliers sont-ils de vrais modèles, Xavier Larry ?
Alors de vrais modèles, ça dépend pourquoi. C'est, ils incarnent une forme à la fois, ce sont des combattants, ce sont des nobles, ce sont aussi les représentants d'une culture particulière, d'une culture aristocratique. Après, on sait bien, et dans les récits qu'on a, dans les vies de chevaliers qu'on a, par exemple la vie de Guillaume le Maréchal, dont Georges Duby a tiré un très beau livre,
bien sûr, oui.
Dans cette vie de Guillaume le Maréchal, on voit bien que Guillaume le Maréchal, c'est aussi un malin, c'est aussi un homme qui aime rançonner, qui n'est pas du tout exemplaire. Donc modèle, on peut se poser la question. C'était un modèle social,
et voilà,
à cette époque. Ça ne l'est plus forcément aujourd'hui.
Et un modèle de civilisation, on peut le dire, à travers toute une littérature. Et ça, c'est un aspect gigantesque, presque infini. Il y a tous les chevaliers fictifs, si je puis dire, ceux des romans courtois, ceux des grandes gestes, des chansons de gestes, etc. Ces chevaliers-là habitent l'imaginaire occidental.
Oui, c'est vrai, à partir de la chanson de Roland, dont on a les premiers témoins manuscrits à la fin du XIe au début du XIIe siècle, et puis après avec Chrétien de Troyes dans la deuxième moitié du XIIe siècle, de Lancelot, de Gauvin, de Perceval, de Galahad, autour du roi Arthur, sont des personnages qui ont vraiment habité la civilisation occidentale, la littérature occidentale jusqu'à aujourd'hui.
Il y en a un qui se distingue particulièrement. Est-ce que c'est Perceval ? Est-ce que c'est Lancelot ? Quel est le parangon ? Quel est le chevalier le plus achevé de la littérature ou des lettres ?
Alors c'est peut-être Perceval ou Lancelot qui ont leur mauvais côté. Galahad est le chevalier présenté comme le plus parfait. Le chevalier, malgré tout, qui pour moi est le plus représentatif, c'est le premier d'entre eux, c'est-à-dire c'est Roland. Et Roland,
oui,
qui est vraiment peut-être
le plus ancien,
ancien et le prototype de la chevalerie. Mais jusqu'à l'Arioste au XVIe siècle, on parle et on adapte cette chanson de Roland.
Orlando Furioso.
Exactement, et donc c'est vraiment quelque chose tout à fait fascinant.
Eh bien, je crois que c'est un univers tout simplement fascinant. Je renvoie nos auditeurs à vos publications, Xavier Larry. L'armée du roi de France, la guerre de Saint-Louis à Philippe le Bel, c'est édité chez Perrin. Et chez Talendier, une autre bataille, bien avant, plus d'un siècle avant celle d'Azincourt, c'était la bataille du 11 juillet 1302 à Courtrai. Merci beaucoup de tous vos éclaircissements.
Dans un instant, Franck vous répondra à la question de Diala, qui va en savoir plus sur une vieille expression française, porter les armes de Bourges.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est une question qui nous vient de la page Facebook d'Au cœur de l'histoire, une question de Diala. Bonjour Franck, bien qu'il s'agisse d'un proverbe assez méconnu, pourriez-vous expliquer l'origine de l'expression « porter les armes de Bourges » ?
Alors, pour tout vous dire, je ne connaissais pas cette expression, mais il semblerait que « porter » ou « représenter les armes de Bourges », ça signifie être installé sur un bon siège, nonchalamment, pendant que les autres sont en train de travailler. C'est être mal élevé d'une certaine manière. Alors, Comment trouver l'origine exacte de cette expression? Quand on dit porter les armes là, évidemment, on parle des armoiries, on reste dans la chevalerie, les armes de Bourges qui, en l'occurrence, représentaient un âne sur un fauteuil. Ce blason, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est atypique, faisait référence, semble-t-il, alors, à deux choses. Si l'on en croit Pierre de la Mésangère, dans son dictionnaire des proverbes français, ça faisait référence à la guerre des Gaules. Hein. Au moment des invasions par les troupes de César, un affrontement se serait déroulé aux portes de Bourges. La défense de la cité était assurée par un des capitaines de Vercingétorix qui s'appelait Asinius Pollio. Et il aurait été pris d'une crise de goutte, il aurait délégué le commandement à ses lieutenants. Et au moment de la débâcle, totale débâcle pour les Gaulois, eh bien Asinius aurait rejoint le combat sur une chaise à porteur et il y aurait un rapport entre Asinius, son prénom, et Asinus, qui en latin veut dire l'âne. Voilà, ça c'est l'une des explications. Mais il y a un des concurrents de la Mésangère qui s'appelait Camille Dutheil et qui lui a une toute autre explication. Alors cette explication, on la trouve dans le dictionnaire des hiéroglyphes de 1839. Je suis très savant avec un livre aujourd'hui, un Doctus Cum Libro. Bourges était une place forte du Moyen-Âge, ça effectivement, merci monsieur Dutheil, car entourée de marais et de rivières, nous dit-il. Seule la partie sud-est était une plaine entièrement à découvrir. Alors Philippe Auguste fit bâtir une muraille sur cette partie de la ville en 1190, muraille dotée d'une haute tour dont on peut découvrir jusqu'à 4 lieues selon Dutheil. Eh bien, avec une telle fortification, les habitants de Bourges n'auraient plus eu à craindre une attaque et ils auraient symbolisé cette sécurité chèrement acquise sur le blason de la ville, un âne qui était le symbole de la vie, certains diraient peut-être même d'une certaine résistance, sur un fauteuil, symbole de repos. Alors, la Mésangère ou Dutheil?
À vous de choisir.
La guerre des Gaules ou les fortifications de Philippe Auguste? Je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée sur ce sujet et que je vais avoir un peu de mal dans l'avenir à employer cette expression. Alors attention, comment dit-on?
Porter les armes de Bourges.
Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain.
À demain, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.